maintenant lire la parole de Dieu pour continuer ce service dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 1 et les versets 16 à 20. Marc 1, les versets 16 à 20. En passant le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Puisse le Seigneur bénir la sainte influence de sa parole dans nos cœurs. Amen.
On dit souvent que la Bible est un livre qui propose beaucoup de réponses, et c'est vrai, mais faut-il encore se poser la question de la nature de ces réponses? C'est Paul Ricoeur, un grand penseur disparu il y a peu, qui disait qu'il ne faudrait pas que les chrétiens s'imaginent que la Bible donnerait des réponses théologiques, philosophiques, morales, éthiques, que l'on n'aurait pas forcément dans d'autres communautés de foi ou dans d'autres communautés scientifiques, idéologiques, voire même politiques. Et que les réponses que la Bible apporte finalement ne sont pas forcément à voir telles des vérités incontournables, qui ne se trouveraient que dans ce credo-là. Non, les réponses que la Bible apporte sont des réponses d'un autre genre. Ce sont des réponses qui généralement engagent l'être. Nous pourrions dire qu'il s'agit de réponses totalitaires, en mesurant comme il le faut le mot que j'emploie. Les réponses de la Bible, venons-en directement, sont des réponses à des appels. On peut répondre de plusieurs façons. On peut répondre comme certains dans l'Ancien Testament, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » On peut aussi répondre par le geste, comme les disciples ici. Ils jettent leurs outils, du moins les laissent de côté, et suivent le Christ. Voilà les réponses que la Bible propose. Voilà les réponses prioritaire que la Bible propose. Il me semble que nous sommes tous interpellés par ces réponses-là, parce que d'un certain point de vue, nous avons répondu comme cela à un moment donné dans notre vie. Tous ceux, en effet, qui sont baptisés, et il en est beaucoup ce matin, ont accepté par la volonté, mais aussi par le geste, les eaux baptismales, de répondre oui en s'engageant pour le Seigneur. Il y a, et c'est une grâce de Dieu, une véritable bénédiction. Nous en parlions ce matin avec les jeunes compagnons aînés dans le cadre de l'école du sabbat. Possibilité de réitérer l'engagement, la réponse d'engagement que Dieu attend de nous, puisque sur ce point-là, il nous questionne souvent. Nous avons eu la semaine dernière une très belle journée, je n'avais malheureusement pas la chance et la joie d'être avec vous, mais les échos que j'en ai eus me sont parvenus, avec chacun son poids de satisfaction, de joie, peut-être même de fierté, parce qu'ici même nous avons pu répondre par l'engagement de notre témoignage à ce Dieu qui nous attend. qui nous questionne, qui nous quémande parfois. Et le simple fait d'avoir pu avoir certains de nos amis nous accompagner en ce lieu, le temps d'une catéchèse, d'une école du sabbat, a produit chez nous cet effet-là. Mais le Seigneur est bon, dit-on, et il nous donne encore la possibilité de rajouter à notre joie avec divers événements, et notamment celui dont nous avons déjà parlé. Une grâce, une de plus, qui nous est proposée pour répondre par l'engagement de nos vies à ce Seigneur qui sans cesse passe devant nous pour nous dire « Viens, suis-moi ». Se pose quelque part aussi la question de notre vocation. On dit souvent que les médecins ont eu la vocation, que les pasteurs ou les curés, les prêtres, l'ont eu également. Et on attache habituellement ce vocable à certaines catégories socio-professionnelles. C'est bien, mais c'est un peu réducteur. Du moins, à l'aune biblique, nous sommes tous appelés. Nous avons tous reçu une vocation, une sainte vocation. Et je veux me rappeler ce texte qui dit que nous sommes tous une nation, race royale, un saint sacerdoce. Qu'est-ce qui justifie en grande partie ce statut universel, si ce n'est l'appel à l'engagement de nos vies que Dieu attend de nous? Cette réponse ô combien importante que Dieu attend de chacun de nous et qui généralement se vit dans le creuset de la mission. Regardez tous les hommes, toutes les femmes, les grands hommes, les grandes femmes de la Bible. Ils ont tous répondu en s'engageant dans leur vie et ils ont tous été impliqués dans des missions ô combien ambitieuses. Prenez l'exemple d'Abraham, prenez l'exemple de Moïse, prenez l'exemple de David, prenez l'exemple d'Esther, prenez dans le Nouveau Testament l'exemple du Christ, prenez dans le Nouveau Testament l'exemple des apôtres, des disciples d'abord. Ils ont, comme nous l'avons lu ce matin, suivi Jésus sans mot dire, en jetant les outils de la vie quotidienne et en s'emparant de ceux de la vie spirituelle. Et ils se sont trouvés impliqués dans des projets, permettez-moi l'expression, pharaoniques. 12 hommes, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, qui en 15-20 ans convertissent par la force de leur mission et le zèle avec laquelle ils l'avaient entouré, tout un continent, tout le bassin méditerranéen, parce qu'ils se sont engagés, parce qu'ils ont répondu par l'engagement au passage de Jésus. C'est quoi la vocation finalement? Eh bien c'est croire. C'est croire les mots de ce Jésus qui nous dit « venez et allez ». C'est être capable à un moment donné de faire confiance à cette parole et de la prendre au mot. Et de se dire, je ressens dans cette parole, chez celui qui me la lance, chez celui qui me la donne, le Christ, quelque chose qui vient me parler, quelque chose qui fait résonance avec le plus intime, le plus profond de ma personnalité. Je perçois qu'il y a dans cet appel, dans cette parole, une vérité, une importance tout du moins, à côté de laquelle je ne dois pas passer. Et la réponse qu'est mon engagement n'est qu'une réponse de foi. On peut dire j'ai la foi, mais si l'on ne vit pas la foi, à quoi bon? Et c'est toute la théologie de Jacques, je vous ramène à son épître. La vocation, le sacerdoce universel, les prêtres que nous sommes tous, c'est très simple. Ne théologisons pas à outrance et inutilement. Il s'agit de dire, Seigneur, me voici, j'ai entendu ta voix, que puis-je faire pour toi? C'est aussi simple que cela. savez, nous souffrons aujourd'hui de vies monotones. Nous souffrons aujourd'hui de vies qui sont bien chargées, mais qui s'enlisent dans le refrain de la monotonie. Nous nous levons à la même heure chaque matin. Nous exécutons les mêmes gestes au même moment tout au long de la journée. Je crois que si nous avons la possibilité de voir et d'entendre, même si parfois les mots sont limités, très concis, Jésus nous dire « Me voici, viens », nous nous donnons la possibilité de contourner cette monotonie. Et là encore, regardez les exemples nombreux de tous ces missionnaires qui, au début du siècle passé, souvent en des terres lointaines, africaines, indiennes et autres, mais aujourd'hui chez nous, lorsqu'ils relatent les expériences de leur mission, nous donnent des vies extraordinaires d'expériences avec le Christ. Des vies d'expériences extraordinaires, de contacts, de relations intéressantes, authentiques avec l'autre. Après tout, n'est-ce pas là ce dont nous avons besoin aujourd'hui? Et de ce point de vue-là, la mission est une grâce égocentrée qui nous concerne en priorité, de prime abord. Elle nous permet de contourner cette espèce de carcan, pour ne pas dire prison, dans lesquels nous sommes enfermés pour enfin respirer. Respirer l'air de la spiritualité, c'est-à-dire celle de la mission. Et enfin vivre, tout simplement. Qui dit vie, dit respiration. Qui dit respiration, dit prière. La mission est aussi une grâce dans le sens où elle nous conduit à la prière. J'abordais lors de ma dernière prédication ici le thème de la difficulté missionnaire. Et je disais que lorsque nous constatons, mesurons objectivement toute l'intensité de cette difficulté, toute la hauteur de cette difficulté, souvent nous amorçons un mouvement de recul. Mais c'est alors que nous trouvons dans la prière la possibilité du courage nécessaire pour passer cette barrière et nous livrer quand même à l'œuvre missionnaire. Je me souviens du rapport d'exaucement de prière qui avait été donné à l'occasion d'un culte spécial proposé il y a bien des années maintenant et qui faisait intervenir le témoignage de la famille Bowers. La famille Bowers était une famille d'Américains qui, il y a 20-25 ans, je crois, peut-être même plus, avait émigré en URSS à l'époque du communisme pour gérer là-bas un dispensaire adventiste, un hôpital, une clinique adventiste. Et malheureusement, déjà en ce temps-là, la mafia sévissait et la mafia de cette ville, je pense qu'il s'agissait de Moscou, avait l'habitude de racketter même les hôpitaux. Et voilà qu'un jour, Madame Bowers rentre dans le téléphone sonné, elle décroche. Et une voix, plutôt grave, lui dit « Nous devons assurer votre sécurité et elle se chiffrera à hauteur de 20 000 euros par mois ou tous les deux ou trois mois. Ma mémoire me fait défaut. » La famille Bowers décide de ne pas répondre à cette sollicitation. Elle laisse le temps passer, du moins les heures, un deuxième coup de fil, une même demande. Voilà que la famille Bowers décide de prier. Mais elle décide de ne pas prier seule. Et en cela, elle reprend le témoignage biblique, celui des compagnons de Daniel et de Daniel lui-même. Lorsqu'ils ont souhaité obtenir de Dieu la révélation du songe que Nebuchadnezzar demandait à ses conseillers, ils n'ont pas prié isolés, ils ont prié ensemble, unis comme les cinq doigts de la main. Eh bien, la famille Bauer s'est unie familialement, mais unie professionnellement. Elle a fait part de l'information au personnel de l'hôpital, qui s'est mis à prier aussi avec elle. Et puis, comme nous étions au début de la révolution numérique, informatique, ils ont utilisé ces nouveaux moyens de communication pour qu'on puisse créer mondialement une chaîne de prière. Et voilà que le monde entier s'est mis à prier pour le problème rencontré à Moscou par la famille Bowers. Et le téléphone a continué à sonner. Vous tardez, le prix va augmenter. Les risques aussi. Et on voyait de temps en temps une voiture passer. Jusqu'au jour, plus exactement au moment, où Madame Bowers a décidé d'afficher tous les messages de sympathie, des fois même les formules de prière qui avaient été aux États-Unis, en Europe, en Inde, que sais-je, prononcées pour ce problème-là. Plus de coups de fil, plus de menaces volatilisées. Bien évidemment, toutes nos prières ne sont pas avec autant de succès exaucées. Mais ce type de prière existe. Et elle relate la réalité, l'authenticité d'expériences de ce genre. Je voulais simplement indiquer le besoin que nous avons de prier pour que nous puissions trouver les ressources positives nécessaires à l'engagement que le Seigneur attend de chacun de vous, de chacun de nous, l'engagement de nos vies. Amen.